Bonjour à tous. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous traversons, nous amène à nous poser la question plus vivement du retour de Jésus et des derniers temps dont la Bible parle, ce que j'avais déjà commencé à évoquer lors du dernier message. Aujourd'hui, j'aurais souhaité parler de l'événement de l'enlèvement de l'Église au ciel lorsque Jésus revient. Mais nous ne pouvons pas parler de cet événement sans être revenu sur la période dans laquelle, normalement ou a priori, cet événement devrait se passer, même si nous ne savons pas exactement quand ce sera le cas. Cette période dont je parle, c'est la période du règne de l'Antichrist. Je vais donc plutôt parler de cela aujourd'hui. Tout d'abord, je vais revenir sur à quoi nous reconnaîtrons cet homme, à quoi nous reconnaîtrons son règne de manière générale, pour ensuite préciser comment ce temps devrait se dérouler. Et enfin, je conclurai en essayant de répondre à cette question, mais finalement, à quoi ça sert de parler de ce temps-là? Pour quelles raisons même Jésus et Paul en ont-ils parlé à un moment donné dans la Bible? Qu'est-ce que cela peut apporter spirituellement, ou que je sois croyant ou incroyant, qu'est-ce que ça peut m'apporter dans ma vie que de connaître plus précisément ces temps dont la Bible parle? Je m'appuierai sur de nombreux versets que nous allons lire ensemble, ou encore des références que vous retrouverez en bas de cette vidéo, des références de versets, afin que notre compréhension soit la plus fidèle possible par rapport au texte. Car même si nous essayons de nous appuyer sur des versets que nous mettons ensemble, nous essayons de faire des recoupements, notre compréhension de ces temps à venir, elle reste humaine, elle reste limitée. Ce que je vais vous transmettre, c'est ma compréhension, qui certes peut rejoindre la compréhension d'autres, mais il existe aussi d'autres compréhensions, même si dans les lignes générales, ça peut se recouper. Il faut donc que nous restions humbles par rapport à cela, et quand Jésus est venu, les docteurs versés dans les Écritures, bien qu'il y avait des passages qui parlaient de lui, n'ont pas pu le recevoir comme le Messie, comme le Sauveur, alors qu'ils connaissaient la parole. Et finalement, ce sont les personnes humbles, telles les enfants, des pêcheurs, des bergers, et encore d'autres qui l'ont reçu. Donc premièrement, à quoi reconnaîtra-t-on cet homme et son règne ? C'est l'apôtre Jean qui parle d'abord de l'Antichrist, Antichristos en grec, qui signifie aussi anti-messie. Il en parle dans sa première épître, où il vient dire « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. » Donc Jean est en train de dire, si on lit aussi la suite de son épître, c'est ce qui se passe aussi, il dit qu'il y a déjà sur terre la pensée de l'antéchrist, un état d'esprit, une mentalité antéchrist, c'est-à-dire qui consiste à rejeter Jésus-Christ comme fils de Dieu, et Jésus-Christ comme étant le Sauveur, le Seigneur, comme étant envoyé de Dieu, comme étant Dieu fait homme. Et à côté de ça, il distingue de la personne de l'antéchrist qui doit venir et qui sera complètement habité de cette pensée, qui revendiquera même cette pensée, qui vraiment niera que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu fait homme. Donc, il y a d'un côté la pensée de l'antéchrist, la mentalité de l'antéchrist, qui est déjà là, que l'on peut observer chez diverses personnes, au travers de divers comportements, dans des systèmes aussi, depuis 2000 ans au moins. Et il y a la personne de l'antéchrist, qui n'est pas encore là et qui viendra. Cet homme est aussi appelé par Jésus et Daniel l'abomination de la désolation ou le dévastateur. Et par Paul, il est appelé l'homme de l'iniquité, l'homme de la perdition ou de la destruction, et l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu. C'est encore dans l'Apocalypse, la bête de la mer, en particulier au chapitre 13 et puis aussi au chapitre suivant. Son apparition sera précédée d'un contexte d'apostasie croissante. Nous pouvons lire dans 2 Thessaloniciens « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. » Ce sont donc les paroles de Paul. L'apostasie, c'est quoi? C'est l'éloignement de la Torah de Dieu, de l'enseignement de Dieu, de la loi de Dieu, des principes de vie de Dieu. Et on retrouve cette notion d'apostasie dans l'expression même de l'homme du péché. Du péché, c'est, en grec, c'est anomias, anomos, nomos, c'est loi, donc ça sera un homme sans loi, sans la loi de Dieu. Et son apparition sera donc déjà précédée d'un contexte où on appellera le mal bien et le bien mal, comme il est dit dans Ésaïe 5 au verset 20. Quand il apparaîtra, cet homme sera reçu comme un génie politique par le monde, réussissant là où personne n'avait réussi auparavant à conclure, ou plutôt à confirmer, une alliance qui durera 7 années, une alliance de paix, là où le monde, a priori, sera dans une crise majeure. Nous pouvons déduire cela de Daniel 9, qui reçoit cette vision, qu'il écrit ainsi, « Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. » Donc une semaine, ce sont en fait, dans les temps bibliques, 7 ans. Il y a aussi 1 Thessaloniciens 5 où Paul dit « Quand les hommes diront paix et sûreté », ce qui fait référence à cette alliance de paix, « alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. » Cet homme qui est l'Antéchrist donc séduira le monde entier, selon encore les paroles de Paul. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc ce sera vraiment le fait d'être ancré dans la vérité qu'est Jésus-Christ, d'être ancré dans la vérité de la parole de Dieu dans la Bible qui sera une protection. Car cette séduction ira au point qu'il soit reçu comme le Messie par tous, par les musulmans qui attendent une figure messianique qui s'appelle Al-Mahdi, et par les juifs aussi, qui attendent un Messie qui a plus un profil d'homme de guerre. Et ce sera exactement le profil que l'Antéchrist aura, selon Apocalypse 13 et 17, et selon aussi Daniel 9 qui parle du dévastateur. Concernant l'acceptation de l'Antéchrist comme Messie par les juifs, nous pouvons aussi le comprendre à partir des paroles de Jésus et de Paul qui disent qu'il s'assiera dans le temple de Jérusalem qui aura été reconstruit. Jésus dit donc « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi dans le lieu saint c'est le temple de Jérusalem. » Et Paul aussi dit « Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou de ceux qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. » Et donc, à un moment donné, cet homme niera que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu fait homme. Alors deuxièmement, comment se déroulera le règne de l'Antichrist? Vous allez pouvoir voir, sache picher une diapo pour que vous puissiez mieux visualiser. Il se fera en 2 phases de 3 ans et demi chacune, selon ce que dit Daniel. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, donc 7 ans, et durant la moitié de la semaine, donc 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Donc là, dans ce verset, nous avons les 7 ans du règne de l'Antéchrist. Dans la première phase, qui sera donc précédée, comme nous l'avons dit, d'un contexte, du contexte d'une apostasie croissante, cet homme apparaîtra donc d'abord a priori en sauveur pour le monde entier, notamment pour les juifs et les musulmans, en parvenant à établir un traité de paix là où personne n'y est arrivé jusqu'à présent, c'est-à-dire au Moyen-Orient autour de Jérusalem. Pourquoi au Moyen-Orient autour de Jérusalem? Parce que la Bible finalement se centre sur Israël et Jérusalem. Quand Dieu regarde le monde, il voit Israël et Jérusalem. C'est ce que l'on peut comprendre, par exemple, dans Zacharie, qui dit que pour Dieu, Israël, c'est la prunelle de ses yeux. Et qui dit aussi que, par rapport à Jérusalem, il parle des conflits au sujet de Jérusalem qui seront comme un problème insoluble pour les nations, une pierre d'achoppement, dans Zacharie au chapitre 12. Donc, de ce fait-là, beaucoup, enfin plusieurs en tout cas, comprennent que, ou se disent que c'est à l'issue d'une crise mondiale majeure qui aura pour épicentre Israël et Jérusalem que l'Antéchrist viendra faire une alliance de paix, viendra réussir cette alliance de paix. Et donc, c'est ce qui fera qu'il sera accepté, et ce sera peut-être 3 ans et demi d'une paix toute relative, en tout cas qui sera en apparence paix et sécurité, comme disait Paul. Donc quelque chose d'illusoire. Puis au bout de 3 ans et demi, à la moitié de son règne, arrivera ce que la Bible appelle la grande tribulation. Daniel déjà en parle au chapitre 12 comme une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Jésus, lui, dit que ce sera la détresse, que sa détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et Paul dit que quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'échapperont point. Cette grande tribulation, il en est aussi question dans Apocalypse 3:10, où Jésus vient dire, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, il s'adresse à l'église de Philadelphie, par extension, il s'adresse à l'église en général, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Cette grande tribulation commencerait par le prodige d'une pseudo-résurrection de l'Antéchrist que l'on peut déduire de Apocalypse 13 au verset 2 et 3, où il est dit que le dragon, c'est Satan, lui donna à l'Antéchrist, lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Donc, ce sera une pseudo-résurrection dans le sens où il sera blessé mortellement et il reviendra à la vie d'une certaine manière. Donc, ce sera vraiment un prodige pour toute la terre. Mais ce sera une pseudo-résurrection dans le sens où Jésus seul est vraiment ressuscité. Jésus seul est vraiment ressuscité car il vit éternellement et lui, il a vaincu la mort. Ce qui n'est pas le cas de l'Antéchrist, mais du coup, c'est ce qu'il fera croire. Un troisième temple aura alors été reconstruit à Jérusalem. Selon certains, ce sera vraiment un troisième temple en pierre. Pour d'autres, c'est plutôt à prendre de manière symbolique. Personnellement, j'ai la conviction que ce sera vraiment un troisième temple en pierre. Donc ce troisième temple aura été reconstruit à Jérusalem et l'Antichrist, qui aura été divinisé du fait de cette pseudo-résurrection, s'assiera dans le trône de ce temple, s'autoproclamant Dieu, s'élevant au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou de tout ce qui se réfère au Dieu de la Bible. Le faux prophète sera une personne qui va s'associer à lui, le faux prophète qui est aussi appelé la bête de la terre dans Apocalypse 13 et dans d'autres chapitres. Il s'associera à lui et organisera son adoration par le monde entier. Cela prendrait la forme d'une religion unique et idolâtre dont l'Antéchrist sera donc l'idole. Et cette religion, on peut la retrouver sous le terme de Babylone dans l'Apocalypse au chapitre 17 et 18. L'Antéchrist et le faux prophète prendront ainsi le contrôle total, que ce soit au niveau religieux ou économique, puisqu'il est dit que personne ne pourra ni acheter ni vendre sans être soumis, sans appartenir à ce système totalitaire. Ce temps sera aussi celui où s'abattront des jugements de Dieu, qu'on peut lire dans l'Apocalypse à partir du sixième sceau, du premier au cinquième sceau, ça concerne les douleurs de l'enfantement, mais les jugements de Dieu, c'est-à-dire que la colère de Dieu va venir s'abattre sur le mal, sur le péché qui est dans ce monde, au travers du sixième sceau, des trompettes, des coupes, c'est ainsi que ces jugements se présentent dans l'Apocalypse. L'Antichrist et le faux prophète en seront à la fois les instruments contre l'humanité, la partie de l'humanité qui aura rejeté Dieu, mais ils en seront aussi les cibles de la même manière que cette humanité en révolte contre Dieu, qui sera de plus en plus en révolte. Puis Jésus reviendra avec son Église qui aura été enlevée vers lui à un moment donné, on ne sait pas à quel moment exactement cet enlèvement aura eu lieu. Il reviendra avec son Église pour mettre un terme à tout ce mal, et cela se fera par une bataille finale contre l'Antichrist et ceux qui le suivent, appelée la bataille de l'Armageddon. L'Armageddon, c'est une vallée en Israël qu'on appelle aussi Jisréel. Et Jésus sera vainqueur sans peine de cette bataille, selon aussi ce que Paul dit en 2 Thessaloniciens. Et alors paraîtra l'impie, l'Antichrist, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Et donc, Jésus installera son règne messianique avec son Église, qu'on appelle, règne messianique, qu'on appelle aussi le millénium. Pour conclure, à quoi finalement cela sert-il que de parler de ces temps à venir qui ne sont pas immédiatement là? À quoi cela sert-il d'en parler maintenant, dans les temps que nous vivons en particulier? Déjà, pour quelles raisons Jésus et Paul eux-mêmes en ont parlé aux premiers disciples, à l'Église naissante, dans les temps qu'ils vivaient? Bien sûr, il ne s'agissait pas de les effrayer, pas plus que ce n'est le but de ce message aujourd'hui. Il s'agissait d'opérer une prise de conscience. Jésus et Paul venaient répondre aux préoccupations de leurs interlocuteurs qui eux-mêmes vivaient des temps difficiles. Les disciples vivaient l'occupation romaine, les premiers chrétiens vivaient les persécutions pour leur foi. Et souvent, quand nous vivons des temps difficiles comme cela, eh bien, nous nous posons des questions sur les temps à venir. Nous nous posons des questions sur l'avenir. Nous nous posons des questions sur ce qu'il va se passer. Nous tournons nos regards vers le futur, éventuellement avec appréhension, voire avec angoisse. Il donnait donc les moyens de pouvoir repérer ce qui allait se passer, de pouvoir repérer comment le passage allait se faire de ce temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, qu'on appelle les douleurs de l'enfantement, à ce temps qu'est le règne de l'Antichrist. À quoi ils allaient pouvoir repérer que cela allait se faire. Donc il s'agissait finalement de mieux se situer. Il donnait les moyens pour mieux se situer, pour se positionner spirituellement et pour mieux se préparer, pour mieux se préparer au retour de Jésus. Quand Paul parle aux Thessaloniciens du retour de Jésus, il commence par leur dire que personne ne vous séduise. Pourquoi est-ce qu'il dit cela ? Parce que justement, les Thessaloniciens, traversant des temps difficiles, des temps où ils étaient vraiment persécutés, où c'était vraiment compliqué pour eux, ben ces derniers étaient plus facilement manipulables par des gens mal intentionnés qui, eux, parlaient du retour de Jésus de manière imminente, mais sans considérer tous les signes qui devaient s'accomplir avant, comme c'est le cas au travers de ce que Paul leur a rappelé. Le risque était de tomber sous la coupe de ces personnes. Et effectivement, dans des temps qui sont compliqués comme ça, on est en position de vulnérabilité. Aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent être en position de vulnérabilité et éventuellement se laisser plus facilement manipuler. On peut aussi tomber dans la frayeur dans des temps qui sont compliqués, comme nous vivons aujourd'hui. On peut tomber dans une terrible angoisse. Et on peut aussi, en particulier quand on est chrétien, ne plus s'investir dans ce monde, que l'on soit croyant ou pas, ne plus s'investir dans ce monde, se désengager de ce monde. Or, quand on est chrétien, nous sommes appelés à être engagés dans ce monde. Nous sommes appelés à servir ce monde pour témoigner de Jésus-Christ, que ce soit au travers de nos actes, de notre manière d'être, de nos prières, de toute notre attitude, esprit, âme et corps, pour que le maximum de personnes, pour que tous ceux qui le souhaitent puissent se tourner vers Dieu, se tourner vers Jésus et échapper en particulier à ce mal et vivre éternellement. Enfin, quand Jésus parle aux disciples de tout cela, finalement, il le fait comme un parent. Il le fait comme un parent qui vient avertir son enfant des conséquences heureuses ou malheureuses qui seront celles des choix qu'il va faire dans sa vie. Alors que ce soit quand il est enfant, où ça porte peut-être moins à conséquence, quoique, mais par exemple, voilà, si le four est brûlant, eh bien on va apprendre à notre enfant à surtout ne pas y toucher, on va le prévenir du danger. Et quand l'enfant devient adolescent, on va lui laisser de plus en plus de liberté, mais tout en maintenant un cadre pour maintenir une sécurité, mais c'est lui qui va avoir à faire ses propres choix. Et par exemple, on va l'avertir que de toucher à certains produits, ça pourrait amener des addictions. Donc voilà, c'est lui qui va apprendre à faire ses choix aussi en connaissance de cause. On va en même temps le protéger en étant là, mais on va de plus en plus lâcher la bride. Et finalement, c'est ce que Jésus fait aussi, il sécurise, il protège en avertissant de cette manière, comme un parent pourrait le faire avec son enfant. Il dit que celui qui lit fasse attention quand il se met à parler de tout ce qui concerne l'Antéchrist dans Matthieu 24. Alors bien sûr, il s'adresse à ceux qui ont le rouleau de Daniel, parce qu'il fait référence à ce que dit Daniel, mais il s'adresse aussi à nous tous qui avons la Bible aujourd'hui, avec le Nouveau Testament, ce qui n'était pas le cas des premiers chrétiens. Donc vraiment, c'est quelque chose qui nous concerne, cette génération présente. En exposant ces temps très difficiles qui pourraient certes être pris comme quelque chose d'effrayant, parce que ce sera éprouvant pour les personnes qui le vivront, éprouvant au point d'aller jusqu'à la mort pour beaucoup d'entre eux. Finalement, en faisant cela, en parlant de cela, Jésus vient nous dire jusqu'où le mal peut mener. Il vient nous dire jusqu'où le mal mènera. Quelle peut être l'œuvre du mal, à quel point, jusqu'où ça peut aller. Et que nous avons besoin de lui. Face à tout cela, face à la direction que ce monde prend, malgré le bien que l'on essaye de faire, malgré les efforts que l'on fait, face à la direction que ce monde prend, selon la Bible, nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin d'un sauveur, et c'est justement là-dessus que l'Antéchrist va jouer en se faisant passer pour un sauveur. Mais ce n'est pas lui le véritable sauveur. Le véritable sauveur, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est mort et ressuscité, selon le témoignage qui est rendu dans la Bible et selon le témoignage que plein d'autres personnes depuis 2000 ans qui l'ont rencontré témoignent de cela aujourd'hui. Alors comment te positionnes-tu par rapport à tout ce qui est dit ce matin? Et comment te prépares-tu, quel que soit le moment donné où toutes ces choses arriveront, selon ce que la Bible en dit? Quel statut donnes-tu à la Bible? Quelle valeur donnes-tu à cette parole? Quelle valeur donnes-tu au témoignage de Jésus-Christ? Toi, qu'est-ce que tu as à en dire? Comment tu te places devant cela? Je voudrais juste terminer par cette parole de Jésus-Christ, de nouveau, dans Luc 21, où il tient ce même discours. C'est le passage parallèle de Matthieu 24, où il tient ce même discours sur la fin des temps. Et à un moment, il vient conclure ainsi: Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses quand elles arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Je vais terminer ce message par la prière pour nous remettre tous au Seigneur. Le Seigneur, je te remercie pour tout ce que nous avons entendu aujourd'hui. Je te remercie pour ce que dit ta parole. Et je voudrais te remettre chacun derrière son écran, quel que soit son chemin avec toi, quel que soit là où il en est, Seigneur. Et je te prie vraiment que, ouais, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore et qui sont vraiment troublées, touchées dans leur cœur, qui peuvent être peut-être effrayées, avoir peur par rapport à tout ce qu'elles entendent, Seigneur, tu es venu pour leur donner la paix, pour les protéger et leur donner la liberté en toi, Seigneur, et pour leur donner la vie. Et je prie que là où tu es, tu puisses vraiment recevoir le Seigneur Jésus, que tu puisses t'adresser à lui avec tes mots, que tu puisses lui demander pardon là où demander pardon à Dieu là où tu sais que tu as commis des actes qui sont injustes, des choses, tu as fait des choses, tu as fait du mal et tu ne te sens pas fier de cela, et il peut y avoir une culpabilité. Jésus est venu pour t'ôter cette culpabilité en passant par le pardon, et pour que tu puisses renouer avec Dieu et de nouveau pour que tu puisses vivre éternellement. Alors je te laisse juste t'adresser à Dieu par les mots qui sont les tiens pendant quelques instants. Je prie aussi pour toutes les personnes qui t'ont déjà choisi et qui peut-être sont dans la peur, le doute, qui ne savent pas comment se positionner par rapport à tout cela. Et Seigneur, vraiment que tu puisses donner ta clarté, ta révélation. Vraiment, Seigneur, que tu viennes pour que chacun puisse se préparer dans son cœur et te suivre avec fidélité. Que chacun puisse entrer dans la fidélité à toi, Seigneur, beaucoup plus encore. Merci vraiment de ta visitation, de ta révélation en chacun. Dans le nom de Jésus, je te prie.